vers Kérouan. Décembre. Nous quittons Tunis par une belle route qui longe d'abord un coteau, suit un instant le lac, puis traverse une plaine. L'horizon large, fermé par des montagnes aux crêtes vaporeuses, est nu, tout nu, taché seulement de place en place par des villages blancs où l'on aperçoit de loin, dominant la masse indistincte des maisons, les minarets pointus et les petits dômes des koubas. Sur toute cette terre fanatique, nous les retrouvons sans cesse, ces petits dômes éclatants des koubas, soit dans les plaines fertiles d'Algérie ou de Tunisie, soit comme un phare sur le dos arrondi des montagnes, soit au fond des forêts de cèdres ou de pins, soit au bord des ravins profonds dans les fourrés de lentisques et de chêne-liège, soit dans le désert jaune entre deux dattiers qui se penchent au-dessus, l'un à droite, l'autre à gauche, et laissent tomber sur la coupole de lait l'ombre légère et fine de leurs palmes. Ils contiennent, comme une semence sacrée, les eaux de marabout qui fécondent le sol illimité de l'islam. Ils font germer de Tanger à Tombouctou, du Caire à la Mecque, de Tunis à Constantinople, de Khartoum à Java, la plus puissante, la plus mystérieusement dominatrice des religions qui ait dompté la conscience humaine. Petits, ronds, isolés, et si blancs qu'ils jettent une clarté, ils ont bien l'air d'une graine divine, jetée à poignée sur le monde par ce grand semeur de foi, Mohammed, frère d'Aïssa et de Moïse. Pendant longtemps, nous allons au grand trot des quatre chevaux attelés de front, par des plaines sans fin, plantés de vignes ou ensemencés de céréales qui commencent à sortir de terre. Puis soudain, la route, la belle route établie par les ponts et chaussées depuis le protectorat français, s'arrête net. Un pont a cédé aux dernières pluies, un pont trop petit qui n'a pu laisser passer la masse d'eau venue de la montagne. Nous descendons à grand-peine dans le ravin, et la voiture, remontée de l'autre côté, reprend la belle route, une des principales artères de la Tunisie, comme on dit dans le langage officiel. Pendant quelques kilomètres, nous pouvons trotter encore, jusqu'à ce qu'on rencontre un autre petit pont qui a cédé également sous la pression des eaux. Puis un peu plus loin, c'est au contraire le pont qui est resté, tout seul, indestructible, comme un minuscule arc de triomphe, tandis que la route, emportée des deux côtés, forme deux abîmes autour de cette ruine toute neuve. Vers midi, nous apercevons devant nous une construction singulière. C'est, au bout de la route, presque disparue déjà, un large pâté d'habitations sous des ensembles, à peine plus hautes que la taille d'un homme, abritées sous une suite continue de voûtes, dont les unes, un peu plus élevées, dominent et donnent à ce singulier village l'aspect d'une agglomération de tombeaux. Là-dessus courent hérissés des chiens blancs qui aboient contre nous. Ce hameau s'appelle Gorombalia et fut fondé par un chef andalou mahométan, Mohamed Gorombali, chassé d'Espagne par Isabelle la catholique. Nous déjeunons en ce lieu, puis nous repartons. Partout, au loin, avec la lunette jumelle, on aperçoit des ruines romaines, d'abord Vico Aureliano, puis Siago, plus important au reste des constructions byzantines et arabes. Mais voilà que la belle route, la principale artère de la Tunisie, n'est plus qu'une ornière affreuse. Partout, l'eau des pluies l'a trouée, minée, dévorée. Tantôt, les ponts écroulés ne montrent plus qu'une masse de pierres dans un ravin. Tantôt, ils demeurent intacts, tandis que l'eau, les dédaignant, s'effrayait ailleurs une voie, ouvrant à travers le talus des ponts et chaussées des tranchées larges de 50 mètres. Pourquoi donc ces dégâts, ces ruines? Un enfant, du premier coup d'œil, le saurait. Tous les ponceaux, trop étroits d'ailleurs, sont au-dessous du niveau des eaux dès qu'arrivent les pluies. Les uns, donc, recouverts par le torrent, obstrués par les branches qu'ils traînent, sont renversés. Tandis que le courant capricieux, refusant de se canaliser sous les suivants, qui ne sont point sur son cours ordinaire, reprend le chemin des autres années, en dépit des ingénieurs. Cette route de Tunis à Kairouan est stupéfiante à voir. Loin d'aider au passage des gens et des voitures, elle le rend impossible, crée des dangers sans nombre. On a détruit le vieux chemin arabe qui était bon, et on l'a remplacé par une série de fondrières, d'arches démolies, d'ornières et de trous. Tout est à refaire avant d'avoir fini. On recommence à chaque pluie les travaux, sans vouloir avouer, sans consentir à comprendre qu'il faudra toujours recommencer ce chapelet de ponts croulants. Celui d'Amphidaville a été reconstruit deux fois. Il vient encore d'être emporté. Celui d'Oued el-Aban est détruit pour la quatrième fois. Ce sont des ponts nageurs, des ponts plongeurs, des ponts culbuteurs. Seuls les vieux ponts arabes résistent à tout. On commence par se fâcher, car la voiture doit descendre en des ravins presque infranchissables, où 10 fois par heure on croit verser. Puis on finit par en rire, comme d'une incroyable cocasserie. Pour éviter ces ponts redoutables, il faut faire d'immenses détours. Aller au nord, revenir au sud, tourner à l'est, repasser à l'ouest. Les pauvres indigènes ont dû, à coups de pioche, à coups de hache, à coups de serpe, se frayer un passage nouveau à travers le maquis de chênes verts, de tuyas, de lentisques, de bruyères et de pins d'Alep, l'ancien passage étant détruit par nous. Bientôt, les arbustes disparaissent, et nous ne voyons plus qu'une étendue onduleuse, crevassée par les ravines, où de place en place apparaissent soit les eaux claires d'une carcasse aux côtes soulevées, soit une charogne à moitié dévorée par les oiseaux de proie et les chiens. Pendant 15 mois, il n'est point tombé une goutte d'eau sur cette terre, et la moitié des bêtes y sont mortes de faim. Leurs cadavres restent semés partout, empoisonnent le vent, et donnent à ces plaines l'aspect d'un pays stérile, rongé par le soleil et ravagé par la peste. Seuls les chiens sont gras, nourris de cette viande en putréfaction. Souvent, on en aperçoit 2 ou 3 acharnés sur la même pourriture. Les pattes raides, ils tirent sur la longue jambe d'un chameau ou sur la courte patte d'un bourriquet. Ils dépècent le poitrail d'un cheval ou fouillent le ventre d'une vache. Et on en découvre au loin qui erre, en quête de charogne, le nez dans la brise, le poil épais, tendant leur museau pointu. Et il est bizarre de songer que ce sol calciné depuis 2 ans par un soleil implacable, noyé depuis 1 mois sous des pluies de déluge, sera, vers mars et avril, une prairie illimitée, avec des herbes montant aux épaules d'un homme et d'innombrables fleurs, comme nous n'en voyons guère en nos jardins. Chaque année, quand il pleut, la Tunisie entière passe, à quelques mois de distance, par la plus affreuse aridité et par la plus fougueuse fécondité. De Sahara sans un brin d'herbe, elle devient tout à coup, presque en quelques jours, comme par miracle, une Normandie follement verte, une Normandie ivre de chaleur, jetant en ses moissons de telles poussées de sève qu'elles sortent de terre, grandissent, jaunissent et mûrissent à vue d'œil. Elle est cultivée, de place en place, d'une façon très singulière par les Arabes. Ils habitent soit les villages clairs aperçus au loin, soit les gourbis, huttes de branchages, soit les tentes brunes et pointues, cachées comme d'énormes champignons, derrière des broussailles sèches ou des bois de cactus. Quand la dernière moisson a été abondante, ils se décident de bonne heure à préparer les labours. Mais, quand la sécheresse les a presque affamés, ils attendent en général les premières pluies pour risquer leur dernier grain, ou pour emprunter au gouvernement la semence qu'il leur prête assez facilement. Or, dès que les lourdes ondées d'automne ont détrempé la contrée, Ils vont trouver tantôt le caïd qui détient le territoire fertile, tantôt le nouveau propriétaire européen qui loue souvent plus cher. Mais ne les vole pas et leur rend dans leur contestation une justice plus stricte, qui n'est point vénale, et ils désignent les terres choisies par eux, en marquent les limites, les prennent à bail pour une seule saison, puis se mettent à les cultiver. Alors, on voit un étonnant spectacle. Chaque fois que, quittant les régions pierreuses et arides, on arrive aux parties fécondes, apparaissent au loin les invraisemblables silhouettes des chameaux laboureurs attelés aux charrues. La haute bête fantastique traîne, de son pas lent, le maigre instrument de bois que pousse l'arabe, vêtu d'une sorte de chemise. Bientôt, ces groupes surprenants se multiplient, car on approche d'un centre recherché. Ils vont, viennent, se croisent par toute la plaine, y promenant l'inexprimable profil de l'animal, de l'instrument et de l'homme, qui semblent soudés ensemble, ne faire qu'un seul être apocalyptique et solennellement drôle. Le chameau est remplacé de temps en temps par des vaches, par des ânes, quelquefois même par des femmes. J'en ai vu une, accouplée avec un bourriquet, et tirant autant que la bête, tandis que le mari poussait et excitait ce lamentable attelage. Le sillon de l'arabe n'est point ce beau sillon profond et droit du laboureur européen, mais une sorte de feston qui se promène capricieusement à fleur de terre autour des touffes de jujubiers. Jamais ce nonchalant cultivateur ne s'arrête ou ne se baisse pour arracher une plante parasite poussée devant lui. Il l'évite par un détour, la respecte, l'enferme comme si elle était capricieuse, comme si elle était sacrée, dans les circuits tortueux de son labour. Ses champs sont donc pleins de touffes d'arbrisseaux, dont quelques-unes si petites qu'un simple effort de la main les pourrait extirper. La vue seule de cette culture mixte de broussailles et de céréales finit par tant énerver l'œil qu'on a envie de prendre une pioche et de défricher les terres où circulent, à travers les jujubiers sauvages, ces triades fantastiques de chameaux, de charrues et d'arabes. On retrouve bien, dans cette indifférence tranquille, dans ce respect pour la plante poussée sur la terre de Dieu, l'âme fataliste de l'oriental. Si elle a grandi là, cette plante, c'est que le maître l'a voulu sans doute. Pourquoi défaire son œuvre et la détruire? Ne vaut-il pas mieux se détourner et l'éviter? Si elle croît jusqu'à couvrir le champ entier, n'y a-t-il point d'autre terre plus loin? Pourquoi prendre cette peine? Faire un geste, un effort de plus, augmenter d'une fatigue, si légère soit-il, la besogne indispensable. Chez nous, le paysan, rageur, jaloux de la terre plus que de sa femme, se jetterait la pioche aux mains sur l'ennemi poussé chez lui, et sans repos jusqu'à ce qu'il l'eût vaincu, il frapperait, avec de grands gestes de bûcheron, la racine tenace enfoncée au sol. Ici, que leur importe? Jamais non plus ils n'enlèvent la pierre rencontrée. Ils la contournent aussi. En une heure, certains champs pourraient être débarrassés par un seul homme des rochers mobiles qui forcent le soc de charrue à des ondulations sans nombre. Ils ne le feront jamais. La pierre est là. Qu'elle y reste? N'est-ce pas la volonté de Dieu? Quand les nomades ont ensemencé le territoire choisi par eux, ils s'en vont cherchant ailleurs des pâturages pour leurs troupeaux et laissant une seule famille à la garde des récoltes. Nous sommes à présent dans un immense domaine de 140 000 hectares qu'on nomme l'Amphida et qui appartient à des Français. L'achat de cette propriété démesurée, vendue par le général Kheireddin, ex-ministre du Bey, a été une des causes déterminantes de l'influence française en Tunisie. Les circonstances qui ont accompagné cet achat sont amusantes et caractéristiques. Quand les capitalistes français et le général se furent mis d'accord sur le prix, on se rendit chez le cadi pour rédiger l'acte. Mais la loi tunisienne contient une disposition spéciale qui permet aux voisins limitrophes d'une propriété vendue de réclamer la préférence à prix égal. Chez nous, par prix égal, on entendrait exprimer une somme égale en n'importe quelle espèce ayant cours. Mais le code oriental, qui laisse toujours ouverte une porte pour les chicanes, prétend que le prix sera payé par le voisin réclamant en monnaie identiquement pareille. Même nombre de titres de même nature, de billets de banque de même valeur, de pièces d'or, d'argent ou de cuivre. Enfin, afin de rendre, en certains cas, insoluble cette difficulté, il permet au caddie d'autoriser le premier acheteur à ajouter aux sommes stipulées une poignée de menues piécettes indéterminées, par conséquent inconnues, ce qui met les voisins limitrophes dans l'impossibilité absolue de fournir une somme strictement et matériellement semblable. Devant l'opposition d'un Israélite, M. Lévy, voisin de l'Amphida, les Français demandèrent au caddie l'autorisation d'ajouter au prix convenu cette poignée de menues monnaies. L'autorisation leur fut refusée. Mais le code musulman est fécond en moyens, et un autre se présenta. Ce fut d'acheter cet énorme bloc de terre de 140 000 hectares, moins un ruban d'un mètre, sur tout le contour. Dès lors, il n'y avait plus contact avec un autre voisin. Et la société franco-africaine demeura, malgré tous les efforts de ses ennemis et du ministère bellical, propriétaire de l'Amphida. Elle y a fait faire de grands travaux dans toutes les parties fertiles, a planté des vignes, des arbres, fondé des villages et divisé les terres par portions régulières de 10 hectares chacune, afin que les Arabes eussent toute facilité pour choisir et indiquer leur choix sans erreur possible. Pendant 2 jours, nous allons traverser cette province tunisienne avant d'en atteindre l'autre extrémité. Depuis quelque temps, la route, une simple piste à travers les touffes de jujubier, était devenue meilleure, et l'espoir d'arriver avant la nuit à Boufisha, où nous devions coucher, nous réjouissait, quand nous aperçûmes une armée d'ouvriers de toute race occupée à remplacer ce chemin passable par une voie française, c'est-à-dire par un chapelet de danger. Et nous devons reprendre le pas. Ils sont surprenants, ces ouvriers. Le nègre lipu, aux gros yeux blancs, aux dents éclatantes, pioche à côté de l'arabe, au fin profil, de l'espagnol, poilu, du marocain, du maure, du maltais, et du terrassier français égaré, on ne sait comment ni pourquoi, en ce pays. Il y a aussi là des Grecs, des Turcs, tous les types de Levantins. Et on songe à ce que doit être la moyenne de morale, de probité et d'aménité de cette horde. Vers 3 heures, nous atteignons le plus vaste caravansérail que j'ai jamais vu. C'est toute une ville, ou plutôt un village, enfermé dans une seule enceinte, qui contient, l'une après l'autre, 3 cours immenses où sont parqués, en 2 petites cases, les hommes, boulangers, savetiers, marchands d'hiver, et sous des arcades, les bêtes. Quelques cellules propres, avec des lits et des nattes, sont réservées pour les passants de distinction. Sur le mur de la terrasse, 2 pigeons blancs, argentés et luisants, nous regardent avec des yeux rouges qui brillent comme des rubis. Les chevaux ont bu, nous repartons. La route se rapproche un peu de la mer, dont nous découvrons la traînée bleuâtre à l'horizon. Au bout d'un cap, une ville apparaît, dont la ligne, droite, éblouissante sous le soleil couchant, semble courir sur l'eau. C'est Hammamet, qui se nommait Pout-Pout sous les Romains. Au loin, devant nous, dans la plaine, se dresse une ruine ronde qui, par un effet de mirage, semble gigantesque. C'est encore un tombeau romain, haut seulement de 10 mètres, qu'on nomme Kars el Menara. Le soir vient. Sur nos têtes, le ciel est resté bleu. Mais devant nous s'étale une nuée violette, opaque, derrière laquelle le soleil s'enfonce. Au bas de cette couche de nuages s'allonge sur l'horizon et sur la mer un mince ruban rose, tout droit, régulier, et qui devient, de minute en minute, de plus en plus lumineux à mesure que descend vers lui l'astre invisible. De lourds oiseaux passent d'un vol lent. Ce sont, je crois, des buses. La sensation du soir est profonde, pénètre l'âme, le cœur, le corps, avec une rare puissance dans cette lande sauvage qui va ainsi jusqu'à Kérouan, à 2 jours de marche devant nous. Telle doit être, à l'heure du crépuscule, la steppe russe. Nous rencontrons 3 hommes en burnou. De loin, je les prends pour des nègres, tant ils sont noirs et luisants. Puis je reconnais le type arabe. Ce sont des gens du Souf, curieuse oasis presque enfouie dans les sables, entre les côtes et Tougourte. La nuit bientôt s'étend sur nous. Les chevaux ne vont plus qu'au pas. Mais soudain, surgit dans l'ombre un mur blanc. C'est l'intendance nord de l'Amphida, le Borj de Boufisha, sorte de forteresse carrée, défendue par des murs sans ouverture et par une porte de fer contre les surprises des Arabes. On nous attend. La femme de l'intendant, Madame Moreau, nous a préparé un fort bon dîner. Nous avons fait 80 kilomètres malgré les ponts et chaussées. 12 décembre. Nous partons au point du jour. L'aurore est rose, d'un rose intense. Comment l'exprimer? Je dirais saumonée, si cette note était plus brillante. Vraiment, nous manquons de mots pour faire passer devant les yeux toutes les combinaisons des tons. Notre regard, le regard moderne, sait voir la gamme infinie des nuances. Il distingue toutes les unions de couleurs entre elles, toutes les dégradations qu'elles subissent, toutes les modifications sous l'influence des voisinages, de la lumière, des ombres, des heures, du jour. Et pour dire ces milliers de subtiles colorations, nous avons seulement quelques mots, les mots simples qu'employaient nos pères afin de raconter les rares émotions de leurs yeux naïfs. Regardons les étoffes nouvelles. Combien de tons inexprimables entre les tons principaux. Pour les évoquer, on ne peut se servir que de comparaisons qui sont toujours insuffisantes. Ce que j'ai vu ce matin-là, en quelques minutes, je ne saurais, avec des verbes, des noms et des adjectifs, le faire voir. Nous nous approchons encore de la mer, ou plutôt d'un vaste étang qui s'ouvre sur la mer. Avec ma lunette jumelle, j'aperçois dans l'eau des flamants et je quitte la voiture afin de ramper vers eux entre les broussailles et de les regarder de plus près. J'avance, je les vois mieux. Les uns nagent, d'autres sont debout sur leurs longues échasses. Ce sont des taches blanches et rouges qui flottent, ou bien des fleurs énormes poussées sur une menue tige de pourpre, des fleurs groupées par centaines, soit sur la berge, soit dans l'eau. On dirait des plates-bandes de lys carminés, d'où sortent, comme d'une corolle, des têtes d'oiseaux tachées de sang au bout d'un cou mince et recourbé. J'approche encore, et soudain, la bande la plus proche me voit ou me flaire et fuit. Un seul s'enlève d'abord, puis tous partent. C'est vraiment l'envolée prodigieuse d'un jardin dont toutes les corbeilles, l'une après l'autre, s'élancent au ciel. Et je suis longtemps avec ma jumelle, les nuages roses et blancs qui s'en vont là-bas, vers la mer, en laissant traîner derrière eux toutes ces pattes sanglantes, fines comme des branches coupées. Ce grand étang servait autrefois de refuge aux flottes des habitants d'Aphrodisium, pirates redoutables qui s'embusquaient et se réfugiaient là. On aperçoit au loin les ruines de cette ville où Bélisaire fit halte dans sa marche sur Carthage. On y trouve encore un arc de triomphe, les restes d'un temple de Vénus et d'une immense forteresse. Sur le seul territoire de l'Amphida, on rencontre ainsi les vestiges de 17 cités romaines. Là-bas, sur le rivage, est Ergla, qui fut l'opulente Oera Coelia d'Antona. Et si, au lieu d'incliner vers Kérouan, nous continuions en ligne droite, nous verrions, le soir du troisième jour de marche, se dressait dans une plaine absolument inculte l'amphithéâtre de Edgem, aussi grand que le Colisée de Rome, débris colossal qui pouvait contenir 80 000 spectateurs. Autour de ce géant, qui serait presque intact si Hammouda, bey de Tunis, ne l'avait pas fait ouvrir à coups de canon pour en déloger les Arabes qui refusaient de payer l'impôt, on a trouvé, de place en place, quelques traces d'une grande ville luxueuse, de vastes citernes et un immense chapiteau corinthien de l'art le plus pur, bloc unique de marbre blanc. Quelle est l'histoire de cette cité, la Tushdrita de Pline, la Trisdruse de Ptolémée, dont le seul nom se trouve transcrit une ou deux fois par les historiens? Que lui manque-t-il pour être célèbre, puisqu'elle fut si grande, si peuplée et si riche? Presque rien. Un Homère. Sans lui, qu'eût été Troie? Qui connaîtrait Ithaque? Dans ce pays, on apprend par ses yeux ce qu'est l'histoire, et surtout ce que fut la Bible. On comprend que les patriarches et tous les personnages légendaires, si grands dans les livres, si imposants dans notre imagination, furent de pauvres hommes qui erraient à travers les peuplades primitives, comme errent ces Arabes, graves et simples, pleins encore de l'âme antique et vêtus du costume antique. Les patriarches ont eu seulement des poètes historiens pour chanter leur vie. Une fois au moins par jour, au pied d'un olivier, au coin d'un bois de cactus, on rencontre la fuite en Égypte. Et on sourit en songeant que les peintres galants ont fait asseoir la Vierge Marie sur l'âne qui fut monté sans aucun doute par Joseph, son époux, tandis qu'elle suivait à pas pesants, un peu courbée, portant sur son dos, dans un burnous gris de poussière, le petit corps, rond comme une boule, de l'enfant Jésus. Celle que nous voyons surtout à chaque puits, c'est Rebecca. Elle est habillée d'une robe en laine bleue, superbement drapée, porte aux chevilles des anneaux d'argent et, sur la poitrine, un collier de plaques du même métal, uni par des chaînettes. Quelquefois, elle se cache la figure à notre approche. Quelquefois aussi, quand elle est belle, elle nous montre un frais et brun visage qui nous regarde avec de grands yeux noirs. C'est bien la fille de la Bible, celle dont le cantique a dit « Nigra sum sed formosa », celle qui, soutenant une outre sur son front par les chemins pierreux, montrant la chair ferme et bronzée de ses jambes, marchant d'un pas tranquille, en balançant doucement sa taille souple sur ses hanches, tenta les anges du ciel, comme elle nous tente encore, nous qui ne sommes point les anges. En Algérie et dans le Sahara algérien, toutes les femmes, celles des villes comme celles des tribus, sont vêtues de blanc. En Tunisie, au contraire, celles des cités sont enveloppées de la tête aux pieds en des voiles de mousseline noire qui en font d'étranges apparitions dans les rues, si claires des petites villes du sud. Et celles des campagnes sont habillées avec des robes gros bleus d'un gracieux et grand effet qui leur donne une allure encore plus biblique. Nous traversons maintenant une plaine où l'on voit partout les traces du travail humain, car nous approchons du centre de l'Amphida, baptisé Amphidaville, après s'être nommé Dar el Bey. Voici là-bas des arbres! Quel étonnement! Ils sont déjà hauts, bien que plantés seulement depuis 4 ans, et témoignent de l'étonnante richesse de cette terre et des résultats que peut donner une culture raisonnée et sérieuse. Puis, au milieu de ces arbres, apparaissent de grands bâtiments sur lesquels flotte le drapeau français. C'est l'habitation du régisseur général et l'œuf de la ville future. Un village s'est déjà formé autour de ces constructions importantes et un marché y a lieu tous les lundis, où se font de très grosses affaires. Les Arabes y viennent en foule de points très éloignés. Rien n'est plus intéressant que l'étude de l'organisation de cet immense domaine, où les intérêts des indigènes ont été sauvegardés avec autant de soin que ceux des Européens. C'est là un modèle de gouvernement agraire pour ces pays mêlés, où des mœurs essentiellement opposées et diverses appellent des institutions très délicatement prévoyantes. Après avoir déjeuné dans cette capitale de l'Amphida, nous partons pour visiter un très curieux village perché sur un roc éloigné d'environ 5 km. D'abord, nous traversons des vignes, puis nous rentrons dans la lande, dans ces longues étendues de terre jaune parsemées seulement de touffes maigres de jujubiers. La nappe d'eau souterraine est à 2 ou 3 ou 5 mètres sous presque toutes ces plaines, qui pourraient devenir, avec un peu de travail, d'immenses champs d'oliviers. On y voit seulement, de place en place, de petits bois de cactus, grands à peine comme nos vergers. Voici l'origine de ces bois. Il existe en Tunisie un usage fort intéressant appelé « droit de vivification du sol », qui permet à tout arabe de s'emparer des terres incultes et de les féconder si le propriétaire n'est point présent pour s'y opposer. Donc, l'arabe, apercevant un champ qui lui paraît fertile, y plante, soit des oliviers, soit surtout des cactus, appelés à tort par lui figuiers de Barbarie, et par ce seul fait, s'assure la jouissance de la moitié de chaque récolte jusqu'à extinction de l'arbre. L'autre moitié appartient au propriétaire foncier, qui n'a plus dès lors qu'à surveiller la vente des produits pour toucher sa part régulière. L'arabe envahisseur doit prendre soin de ce champ, l'entretenir, le défendre contre les vols, le sauvegarder de tout mal, comme s'il lui appartenait en propre. Et chaque année, il met les fruits aux enchères pour que le partage soit équitable. Presque toujours, d'ailleurs, il s'en rend lui-même acquéreur, et paie alors au vrai propriétaire une sorte de fermage irrégulier et proportionnel à la valeur de chaque récolte. Ces bois de cactus ont un aspect fantastique. Les troncs tordus ressemblent à des corps de dragons, à des membres de monstres, aux écailles soulevées et hérissées de pointes. Quand on en rencontre un le soir au clair de lune, on croirait vraiment entrer dans un pays de cauchemars. Tout le pied du roc escarpé qui porte le village de Takrouna est couvert de ces hautes plantes diaboliques. On traverse une forêt du Dante. On croit qu'elles vont remuer, agiter leurs larges feuilles rondes, épaisses et couvertes de longues aiguilles, qu'elles vont vous saisir, vous étreindre, vous déchirer avec ces redoutables griffes. Je ne sais rien de plus hallucinant que ce chaos de pierres énormes et de cactus qui garde le pied de cette montagne. Tout à l'heure, au milieu de ces rochers et de ces végétaux à l'air féroce, nous découvrons un puits entouré de femmes qui viennent chercher de l'eau. Les bijoux d'argent de leurs jambes et de leurs coups brillent au soleil. En nous apercevant, elles cachent leur face brune sous un pli de l'étoffe bleue qui les drape, et, un bras levé sur leur front, nous laissent passer en cherchant à nous voir. Le sentier est escarpé, à peine bon pour des mulets. Les cactus aussi ont grimpé le long du chemin, dans les rochers. Ils semblent nous accompagner, nous entourer, nous enfermer, nous suivre et nous devancer. Là-haut, tout au sommet de la montée, apparaît toujours le dôme éclatant d'une kouba. Voici le village. Un amas de ruines, de murs croulants, où on ne parvient guère à distinguer les trous habités de ceux qui ne servent plus. Les pans de murailles encore debout, au nord et à l'ouest, sont tellement minés et menaçants que nous n'osons pas nous aventurer au milieu. Une secousse les ferait crouler. La vue de là-haut est magnifique. Au sud, à l'est, à l'ouest, la plaine infinie que la mer baigne sur une longue étendue. Au nord, des montagnes pelées, rouges, dentelées comme la crête des coques. Tout au loin, le Djebel Zaghouan qui domine la contrée entière. Ce sont les dernières montagnes que nous apercevrons maintenant jusqu'à Kérouan. Ce petit village de Takrouna est une espèce de plateforme arabe, tout à fait à l'abri d'un coup de main. Tak, d'ailleurs, est un diminutif de Takesh, qui veut dire forteresse. Une des principales fonctions des habitants, car on ne peut en ce cas dire occupation, consiste à garder dans leurs silos les grains que les nomades leur confient après la moisson. Nous revenons le soir, couchés à Amphidaville.